Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Nicolas Sendé, mais aussi Mélanie Chalandon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Somaya Dabesh. Dernier temps de notre série consacrée aux dirigeants mondiaux à l'épreuve du Covid-19. Après avoir évoqué Angela Merkel lundi et le modèle allemand, mardi Xi Jinping et l'irrésistible ascension géopolitique de la Chine en dépit du virus, et puis hier une alternance Trump-Biden marquée par la pandémie aux États-Unis, tournons-nous aujourd'hui vers la Nouvelle-Zélande, dont la dirigeante Jacinda Ardern a été l'une des révélations internationales de cette crise.
Today there are no active cases in New Zealand.
Il n'y a aujourd'hui aucun cas actif en Nouvelle-Zélande. Nous avons testé 40 000 personnes au Covid-19 ces 17 derniers jours et aucune ne s'est révélée positive. Plus personne n'est hospitalisé depuis 12 jours. La dernière contamination locale remonte à 40 jours et cela fait 22 jours que la personne en question a terminé sa quarantaine. Je peux donc annoncer aujourd'hui la décision du gouvernement de revenir au niveau 1 et de réouvrir totalement notre économie, ce qui prend effet presque immédiatement. Nous redescendons au niveau 1 d'alerte au Covid-19 à minuit ce soir.
Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris qu'il n'y avait plus aucun cas de Covid-19 en Nouvelle-Zélande ?
J'ai fait une petite danse.
Instauration d'une quarantaine pour toute personne entrant en Nouvelle-Zélande, alors qu'à peine 6 cas de coronavirus étaient recensés, fermeture des frontières une fois la barre des 20 malades franchie, décret d'un confinement strict après l'annonce de premières contaminations locales face au coronavirus, la première ministre Jacinda Ardern a frappé vite et fort, mettant à profit le caractère insulaire de son pays pour prévenir plutôt que guérir, des choix efficaces, puisque la Nouvelle-Zélande ne comptait plus aucun cas de Covid le 8 juin dernier. Aujourd'hui, alors que de nombreux pays sont encore violemment confrontés à la pandémie, la Nouvelle-Zélande déplore seulement 25 morts pour 5 millions d'habitants et la première ministre Jacinda Ardern vient d'être réélue avec des scores historiques aux élections du 17 octobre dernier. En effet, pour la première fois depuis la réforme du système électoral de 96, un parti a remporté tout simplement la majorité absolue au Parlement, permettant aux travaillistes de former un gouvernement sans coalition. Comment Jacinda Ardern est-elle parvenue à faire accepter sans ciller des mesures de confinement drastiques dès mars, alors que le virus circulait à peine? Et au-delà de ce succès, comment est-elle devenue aussi populaire au point d'être très largement reconduite à son poste? Et qu'attendre du nouveau gouvernement Ardern, justement débarrassé des populistes avec qui elle avait dû former une coalition en 2017? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin David Camerou. Bonjour David Camerou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur honoraire aux séries Sciences Po. Avec nous également Adrien Rod. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors, quand j'ai préparé cette émission hier, j'ai regardé les sondages sur les deux dernières années, les sondages du Parti travailliste. Et on se rend compte, quand on regarde sur les deux dernières années, qu'entre mars 2018 et mars 2020, les courbes d'intention entre le Parti conservateur et le Parti travailliste sont à peu près au même niveau. On s'entrecroise régulièrement, l'un passe devant l'autre. Et puis, à partir de février-mars, les intentions de vote pour le Labour ont littéralement explosé alors que celles des conservateurs tombaient en flèche. Résultat, c'est les élections du mois dernier avec cette victoire du Parti travailliste, 50,01% des voix contre 25,58% pour les conservateurs du Parti national. Absolument aucun doute, David Camerou, sur le fait que cette crise sanitaire a servi les travaillistes et que cette victoire historique, elle est complètement liée à cette crise sanitaire.
Oui, parce qu'elle a montré, en fait, Jacinda Ardern et le gouvernement général, les deux choses qu'on attend de tous les gouvernements dans la crise actuelle, on attend de la compétence et on attend de l'empathie, de la compassion. Et Jacinta Ardern a fait preuve des deux. Mais sa réputation aussi s'est construite sur deux événements précédents, et surtout l'attentat terroriste Christchurch, où elle a montré, qui a coûté la vie à 50 personnes, où elle a montré une capacité de ressembler le peuple néo-zélandais dans le deuil et de trouver les mots justes pour conforter la population musulmane qui était touchée par cet attentat terrible.
Évidemment, on reviendra, David Camerou, sur cet événement qui était un événement majeur. Adrien Rode, pour peut-être poursuivre sur cette victoire des travaillistes, je la liais complètement à cette crise sanitaire. Peut-être faut-il nuancer les choses, nous disait David Camerou. En tout cas, force est de constater que on a, c'est le bilan officiel, 25 morts du Covid pour un pays de 5 millions d'habitants. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la réussite de Jacinda Ardern? Est-ce que c'est d'avoir réagi immédiatement? Est-ce que c'est d'avoir totalement fermé les frontières? Est-ce que c'est le caractère peut-être aussi insulaire du territoire qui explique en partie cette réussite? Comment vous voyez les choses? Et puis ensuite, on verra comment elle a fait pour faire accepter des mesures quand même extrêmement drastiques. On va se pencher sur sa communication qui est très importante. Mais Adrien Rode, d'abord, qu'est-ce qui fait la clé du succès, c'est quoi?
Alors, effectivement, le fait que la Nouvelle-Zélande soit un État insulaire a bien sûr beaucoup aidé. C'est dans le Pacifique Sud, de manière plus générale, que la pandémie a le moins frappé, hein. Les derniers pays au monde à ne toujours pas avoir de cas de Covid-19 sont des petits États insulaires du Pacifique Sud. Le contrôle des frontières est beaucoup plus facile, de se fermer est beaucoup plus facile. Cela dit, ce n'était pas une décision si aisée, parce que même si la Nouvelle-Zélande est un petit pays, seulement 5 millions d'habitants, comme vous l'avez rappelé, très excentré, hein, sur la carte du monde, c'est un pays qui est très ouvert au reste du monde, hein, depuis une quarantaine d'années. C'est un pays qui est très dépendant de ses relations au monde, c'est un pays qui est très ouvert à la mondialisation, au commerce international, à l'immigration à très grande échelle. Donc fermer totalement les frontières n'était pas une décision facile à prendre. Et Jacinda Ardern l'a prise vraiment très tôt, vraiment très fermement, et a su prémunir de cette manière-là son pays.
Comment elle a réussi, David Camerou, à faire accepter justement ces décisions extrêmement contraignantes alors même qu'il y avait très peu de cas de Covid? Y a là un tour de force sur lequel il faut peut-être se pencher.
Oui, je crois que on parle d'une société qui est à la fois diverse mais homogène dans une certaine diversité, où il y a un vrai sentiment national et une sorte, disons, de conservatisme progressiste.
Alors là, il faut nous éclairer, David Camerou. Je l'avais jamais entendu, celle-là.
C'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande, c'est un peu un pays scandinave des antipodes. C'est le premier pays du monde qui a donné le droit de vote aux femmes. C'est un des premiers pays au début du XXe siècle qui a mis en place un système de pension de retraite. C'est l'État-providence avant l'État-providence. À un tel point que l'auteur des lois sur les taux de retraite en France, un certain Albert Mettin, a publié un livre sur l'Australie en 1910 qui s'appelle « Le socialisme sans doctrine ». Où elle explique justement comment ce pays a mis en place ce qu'on appelle actuellement un État-providence. Donc, on a un système de santé qui est efficace, un système de santé de couverture universelle. Et dans ce pays où le rugby est presque la religion nationale, les appels de Jacinta Ardern à ce qu'elle appelle l'équipe néo-zélandaise a un certain impact. C'est-à-dire qu'une communication simple, mais claire, et où on voit où on va, et on explique pourquoi on doit aller dans une certaine direction. Et je crois qu'il y a un côté aussi, le fait qu'elle se jouait ce rôle, disons, de grande sœur pendant la pandémie. Jacinta Ardern, si je peux trouver une formule, c'est un peu un mélange de Margaret Thatcher pour une certaine rigueur morale, avec la maître Reza pour sa capacité de sa générosité, ouais. Avec une grande dose de Julia Roberts pour sa beauté intérieure. Et je crois que on voit avec d'autres femmes leaders, les femmes leaders en général ont mieux réussi. Angela Merkel, Nicola Sturgeon en Écosse. En général, les femmes leaders ont mieux réussi la gestion du Covid que les hommes. Alors, est-ce qu'on est dans les stéréotypes de grands mamans, de grands-mères, de grands sœurs? J'en sais rien. Mais le fait est de constater que le côté féminin dans la communication a beaucoup joué. Et je crois que c'est aussi ça qui a peut-être ressemblé mieux le pays que c'est le cas ailleurs.
Et puis une communication aussi directe, hein, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup, par exemple, utilisé les réseaux sociaux. C'était pas des communications très 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 formelles, trop institutionnalisées. C'était quelque chose d'assez direct. Il y avait ce désir de s'adresser directement à ses citoyens. Adrien Rhodes, il y a évidemment une réussite qu'on ne peut pas nier de Jacinda Ardern, mais peut-être faut-il aussi regarder dans l'autre camp. Parce que lors de cette campagne, il y a eu aussi une crise très importante du côté du Parti National, qui est le principal parti opposant, conservateur, lui. Avec un chef du parti qui démissionne en pleine campagne, remplacé par une chef, en l'occurrence Judith Collins, qui visiblement n'a pas su séduire. Alors je sais pas pourquoi elle a pas su séduire, mais visiblement elle a un passé qui lui colle encore à la peau. On la surnomme visiblement la broyeuse. Je crois que c'est à cause de son passage du côté du ministère de la police. Mais est-ce que au fond la réussite de Jacinda Ardern n'est pas aussi à mettre en regard avec cette difficulté, cette faillite peut-être du côté conservateur?
Oui, et cette difficulté du parti conservateur, hein, donc the National Party, hein, il s'appelle officiellement, est due aussi en fait en très grande partie à la crise du Covid-19. Si on regarde ça d'un point de vue purement politique, autant cette crise a beaucoup servi les travaillistes parce que Jacinda Ardern a su très bien gérer la situation, autant ça a été un très grand problème politique pour l'opposition parce que le Parti National n'a pas su comment y répondre. Critiquer le gouvernement a été très mal perçu. Hein, le prédécesseur de Judith Collins, hein, donc la chef actuelle qui a mené le parti à la campagne, avait tenté un temps au début de continuer une opposition politique et parlementaire un peu standard, de poser des questions un peu critiques au gouvernement. Ça avait été mal perçu par l'opinion publique. Donc le Parti National s'est rangé en très grande partie derrière les mesures prises par le gouvernement, mais du coup il s'est trouvé en position de ne pas pouvoir offrir une alternative claire, crédible à ce que proposaient les travaillistes, sachant que les travaillistes venaient de faire très nettement leurs preuves.
Il y a peut-être une autre faillite qu'on peut mentionner, David Camerou, en tout cas dans les urnes, très clairement, c'est celle de ce parti politique qui s'appelle Nouvelle-Zélande d'abord, qui avait fait alliance avec le Parti travailliste, en tout cas le Parti travailliste avait été obligé de faire alliance avec lui pour avoir la majorité. Il se trouve que là, il s'est littéralement effondré. D'abord, il faut peut-être présenter un tout petit peu ce parti, Nouvelle-Zélande d'abord, et nous expliquer ce qui fait que là, eh bien, aux dernières élections législatives, il s'est effondré.
C'est un parti populiste qui était dirigé par un homme politique, Winston Peters, qui est d'origine maori. Et qui prenait vraiment une politique plus protectionniste, conservateur sur les questions, par exemple, sur la question de port d'armes. Et aussi contre un peu une amélioration du système de sécurité sociale. Donc ça a freiné Jacinda Ardern dans le fait qu'il souhaitait appliquer un programme dès son première élection un peu plus à gauche. Je crois que c'est le cas de beaucoup de partis dans une coalition. c'est qu'à un moment ou un autre, la partie principale tire la couverture vers lui. Mmh. Et le Covid a fait en sorte, c'est celle qui, Jacinta Ardern et le Parti travailliste qui étaient en première, devant, en fait, sur la scène médiatique. Et en fait, le parti de Winston Peters n'avait plus vraiment de raison d'être à un certain moment.
Mmh. Adrien Rod, alors maintenant son parti, il est majoritaire à la Chambre. On est dans un système qui est monocaméral. Elle va donc pouvoir, Jacinda Ardern, déployer son programme à sa guise, lancer absolument toutes les réformes qu'elle veut. Au-delà du défi, évidemment, qui concerne la crise sanitaire, qui pour l'instant est parfaitement maîtrisée, quel est son programme, quel est son projet pour la société néo-zélandaise ?
Alors, effectivement, pour la première fois, vous l'avez rappelé, pour la première fois depuis l'institution d'un système d'élection à la proportionnelle dans les années 1990, un parti politique se trouve seul aux manettes, n'ayant pas à composer avec d'autres partis. Elle a la majorité absolue des sièges. Elle a passé un accord d'entente, mais un accord qui n'est vraiment pas contraignant avec le parti vert. Mais elle peut effectivement faire maintenant à peu près ce qu'elle veut. Sa priorité va être la reconstruction économique. Du pays, sachant que la Nouvelle-Zélande est, comme la majeure partie du reste du monde, entrée en récession en raison de la crise économique. Donc, elle va continuer les mesures d'accompagnement social qui ont été mises en place très très tôt. Hein. Ça, c'est une autre raison de sa réussite durant cette crise, c'est-à-dire que dès le milieu du mois de mars, le gouvernement a débloqué des sommes d'argent importantes pour anticiper l'impact économique et social qu'aurait le confinement, qu'aurait la crise. Donc avec les aides aux entreprises, l'aide au paiement des salaires, les aides aux personnes isolées, etc. Donc ça va continuer le temps que l'économie se remette. Et elle se trouve pressée, notamment par ses alliés verts, mais aussi par une bonne partie de son électorat, notamment son électorat plus jeune, de reconstruire l'économie, de profiter de cette occasion presque, de reconstruire l'économie de manière plus soutenable sur le plan environnemental, de faire des investissements verts, d'investir dans la transition écologique.
Mais est-ce qu'on sait concrètement ce qu'il y a comme type de projet derrière ? J'entends bien l'intention.
Oui. Non, tous les détails sont pas encore connus. Alors, on sait que le gouvernement, sous la législature précédente, avait fait adopter une loi qui, en principe, contraint le gouvernement à atteindre la neutralité carbone à l'horizon du milieu de ce siècle. Mais les mesures très concrètes qu'il fallait prendre dans ce sens ont été freinés effectivement par la coalition qui était en place et aussi par le fait que l'économie de la Nouvelle-Zélande et les exportations de la Nouvelle-Zélande dépendent en très grande mesure du secteur agricole et que la réforme du secteur agricole pour faire en sorte qu'il contribue moins au réchauffement climatique n'est pas du tout aisée. C'est une difficulté auquel le nouveau gouvernement va devoir faire face. Effectivement, maintenant, seul aux manettes, Jacinda Ardern n'aura plus l'excuse, entre guillemets, de devoir se concilier avec un autre parti. Et elle va avoir 3 ans pour faire ses preuves sur ce plan-là.
Alors, David Cameron, justement, ça, c'est un point très important que celle de l'écologie. Il va falloir qu'elle fasse ses preuves, effectivement, parce qu'on a cette image d'un pays, une terre préservée, sauvage, protégée. D'ailleurs, le tourisme, qui est très important, est fondé sur cette promesse de nature préservée. Mais quand on regarde un petit peu les choses, on voit que c'est plus compliqué. En 2015, on l'avait découvert au moment de la COP21 à Paris. La Nouvelle-Zélande avait été... élu, si je puis dire, je mets des guillemets, avait obtenu le premier prix du pays empêchant l'amélioration des négociations sur le climat. C'est dire si on avait affaire à ce qu'on considérait du côté de cette ONG qui a décerné le prix, l'ONG Climate Action Network, le pays comme un mauvais élève. Donc derrière ce mythe de l'écologie, on a un engagement pour l'environnement qui est très contrastée. Et tout l'enjeu pour Jacinda Ardern va être de rompre avec cette image. Alors, on a compris qu'elle était là maintenant en situation de majorité absolue. Elle a quand même souhaité, Adrien Rod nous le disait, faire un accord avec les écologistes, qui donc font partie de son gouvernement. Mais concrètement, est-ce qu'elle peut y arriver? Parce que soit, d'un point de vue politique, elle a les mains libres, mais il va falloir, par exemple, qu'elle affronte le secteur agricole qui fait énormément de lobbying, qui est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que dans ce pays, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont issues de l'agriculture et de l'élevage. À l'échelle mondiale, c'est 10 ou 12%, donc on voit que c'est extrêmement important. Est-ce qu'elle va pouvoir faire face à ce secteur agricole qui fait énormément de lobbying ? David Cameron.
Ça serait difficile parce qu'effectivement, il y a ce décollage entre cette image dans la publicité de Green New Zealand, le Nouvelle-Zélande vert, et la réalité à cause du secteur agricole. La Nouvelle-Zélande, c'est le premier pays exportateur des produits laitiers, par exemple. Et on sait que les vaches, ça fait beaucoup d'émissions de gaz de carbone. Donc, il y a un problème justement structurel, économique, pour faire face à cette situation. Sur les questions de non-utilisation d'énergie fossile, ça c'est plus facile dans la mesure où la Nouvelle-Zélande a ses capacités, par exemple pour l'énergie solaire ou les éoliens, qui n'ont pas vraiment d'autres pays et sur la aussi d'autres formes qui existent depuis des décennies d'énergie renouvelable. Mais il y a un autre aspect de ce défi écologique. C'est le leadership, c'est le rôle qui joue la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique Sud. La Nouvelle-Zélande s'est hissée au rôle du leader des petits pays insulaires pour qui le changement climatique est un problème existentiel. Avec la montée des eaux, effectivement, et des pays qui risquent physiquement de disparaître. La Nouvelle-Zélande, c'est le premier pays du monde qui a reconnu le statut de réfugié écologique. Bon, il n'y a pas eu de conséquences de cette reconnaissance, mais c'est quand même, c'est une signe. Donc, Jacinda Ardern, avec, par exemple, avec les Norvégiens, avec d'autres leaders des petits pays qui sont confrontés à ces problèmes de montée des eaux, a pris un rôle important depuis les accords de Paris pour être un peu le leader, en fait, dans ce pays.
Oui, et puis en plus, là, pour le coup, elle bénéficie d'un alignement des planètes assez rare, Adrien Rod, parce que traditionnellement, c'est plutôt l'Australie, justement, qui se place en position de leader sur ces sujets. Or, aujourd'hui, on a un dirigeant qui est largement climato-sceptique, en l'occurrence Scott Morrison. Donc là, il y a une opportunité pour Ardern. Adrien Rod.
Exactement. Et si on parle d'influence dans la région Pacifique Sud, c'est l'Australie qui demeure le pays dont sont le plus dépendants les petits États insulaires du Pacifique. Hein. C'est l'Australie, loin devant les autres États, qui est le principal fournisseur d'aide au développement. Mais l'Australie est très, très critiquée par les dirigeants de ces petits États du Pacifique Sud pour ce climato-scepticisme. C'est le cas de l'actuel Premier ministre Scott Morrison qui était entré au Parlement australien avec un bloc de charbon à la main en disant « le charbon est bon pour l'humanité » et son prédécesseur également. Et ça crée un espace, oui, pour la Nouvelle-Zélande. Les dirigeants des États insulaires du Pacifique n'ont pas du tout, bien sûr, le même regard sur la Nouvelle-Zélande qu'ils ont sur l'Australie. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est un État qui ne pèse pas sur la scène internationale, hein, avec ses 5 millions d'habitants, avec sa petite économie. Mais c'est un État qui compte dans sa propre région géographique et qui a su et qui sait plus encore avec Jacinda Ardern tisser des liens avec ses États. Je pense notamment aux Fidji. Hein, le gouvernement, les Fidji sont devenus de plus en plus un État qui compte parmi les autres petits États insulaires du Pacifique. Le Premier ministre fidjien s'est fait une voix, s'est fait une influence principalement dans le monde en développement, comme principale porte-parole de la nécessité d'agir sur le réchauffement climatique. Il y a matière là, et il y a matière là, un partenariat. Les deux le savent. Les gouvernements fidjiens et néo-zélandais commencent à travailler ensemble pour construire cet axe d'action sur le changement climatique.
Alors, si désormais Jacinda Ardern est un peu plus connue ici en Europe, on l'avait véritablement découverte au moment des attentats de ces mosquées de Christchurch dont vous parliez tout à l'heure, David Cameron. On est en mars 2019, le 15 mars 2019.
Notre défi est maintenant de nous montrer sous notre meilleur visage chaque jour, parce que nous ne sommes pas à l'abri des virus de la haine ou de la peur de l'autre. Nous ne l'avons jamais été, mais nous pouvons être la nation qui découvre le remède. Et donc, pour chacun d'entre nous, à partir de maintenant, nous avons du travail à faire. La réponse réside dans notre humanité.
Voilà, c'était un discours qu'elle avait fait quelques jours après cet attentat, un massacre diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ces images montrant Jacinda Ardern coiffée d'un foulard noir pour rendre visite aux familles endeuillées avaient fait le tour du monde et la Première ministre avait alors montré une empathie unanimement saluée. David Cameron, les Néo-Zélandais avaient découvert avec une certaine stupéfaction, il faut le dire, qu'ils pouvaient être touchés par le terrorisme, ici le terrorisme d'extrême droite, alors même que l'île apparaissait comme un modèle de multiculturalisme, vous nous le disiez un peu en début de cette émission, et en effet, on y trouve, rappelons-le, plus de 200 ethnies différentes. Mais en quoi cet événement, David Cameron, a peut-être révélé des fractures au sein de la société néo-zélandaise qu'on n'avait pas identifiées? Et est-ce que vous diriez que les responsables politiques, et en l'occurrence Jacinda Ardern, dont on parle aujourd'hui, ont été à la hauteur de l'enjeu?
Je crois que cet attentat, c'était la fin de l'innocence de la Nouvelle-Zélande. Justement, le terroriste, en fait, l'assassin, a choisi la Nouvelle-Zélande et il se disait, je vais dans l'endroit le plus éloigné du monde pour faire du mal. Comme ça, on va montrer que les musulmans sont partout et ils sont là pour nous déplacer. En fait, c'est la fameuse théorie de remplacement de population. Et donc, c'était un choc terrible. C'est pire que l'an septembre pour les Américains, peut-être que Pearl Harbor. C'était vraiment la fin de l'innocence. Et je crois que ce qu'elle... Elle n'a pas vraiment... ça a montré pas la fracture de la société, mais plutôt son unité dans sa diversité. En fait, parce que c'est un pays... peut-être qui est le mieux réussi son vivre ensemble avec son peuple indigène des Maori grâce au traité de Waitangi. C'est certainement le pays qui a mieux réussi dans ce domaine que l'Australie, le Canada ou les États-Unis, où les Maori, la langue Maori est une langue officielle, et les Maori sont très intégrés dans la société, bien que c'est aussi la partie de la société la plus pauvre. Le fait qu'elle a nommé un ministre des Affaires étrangères Maori est aussi plus que symbolique, c'est pour aussi montrer cette idée de ce pays réconcilié avec sa diversité. Donc, quand l'attentat est arrivé, le pays était en quelque sorte un peu mieux armé que d'autres pour faire face. Et je crois qu'elle a trouvé aussi les bonnes expressions, de bonnes façons de parler de ces événements.
Oui, c'était un de ses désirs de construire un nouveau gouvernement extrêmement divers. Et effectivement, il y a effectivement cette ministre des Affaires étrangères maori dont le menton tatoué a fait le tour du monde. Mais il y a aussi, c'est vrai, beaucoup de femmes, 8 femmes sur les 20 postes. Il y a un vice-premier ministre aussi qui est ouvertement homosexuel. Donc c'était vraiment le désir de la première ministre de construire ce gouvernement qui représente cette grande diversité. Adrien Rode, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes aussi élogieux que David Cameron concernant le modèle multiculturel néo-zélandais? Est-ce que vous dites aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucun problème d'insertion des nouveaux arrivants, qu'en réalité, cette diversité ethnique, elle ne pose pas de soucis? Ou est-ce que vous dites, attention, il faut peut-être un petit peu nuancer les choses?
Je dirais qu'il y a peu de tensions. Elles ne sont pas inexistantes. mais elles sont nettement moindres que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays occidentaux. Alors effectivement, comme on vient de l'entendre, la Nouvelle-Zélande a, si on compare à d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie, etc., a beaucoup mieux réussi l'intégration de la population maori. Hein. Ils étaient déjà citoyens au 19e siècle, ils avaient des représentants maori au Parlement à une époque où l'Australie excluait complètement sa population aborigène. Et le tournant du multiculturalisme, de l'ouverture au monde, s'est fait dans les années 1970-1980. C'est le pays occidental qui a la plus grande proportion d'immigrés de première génération. Plus d'un quart de la population, principalement venue d'Asie. Alors, il existe des tensions qui ont d'ailleurs, dans une certaine mesure, été instrumentalisées par le parti Nouvelle-Zélande d'abord, hein, par New Zealand First, qui a à plusieurs reprises accusé les immigrés asiatiques d'être venus en nombre trop conséquent pour pouvoir être bien intégrés, accusé certains de ne pas vouloir s'intégrer, a accusé les riches immigrés asiatiques de jouer sur la spéculation immobilière et d'aggraver la crise du logement, qui est effectivement un vrai problème. Mais d'une part, il n'y a pas vraiment de mouvement d'extrême droite organisé. Nouvelle-Zélande est un mouvement populiste, mais on ne peut pas le qualifier vraiment de mouvement d'extrême droite. Et on l'a encore vu, New Zealand First n'est pas suivi par la population. La population a très majoritairement plébiscité des partis qui sont favorables au multiculturalisme, à la diversité, au vivre ensemble et au message que Jacinda Ardern a apporté.
Je voudrais revenir sur un chiffre que vous venez de donner, puis ensuite je vous fais réagir, David Cameron. Vous avez dit un quart de la population néo-zélandaise, c'est cela, et vient de l'extérieur. Enfin, il y a des parents qui sont qui ont immigré, c'est ça? Enfin, redites-moi exactement.
Plus d'un quart de la population de Nouvelle-Zélande sont des immigrés de première génération eux-mêmes.
D'accord, ok. Alors, là, moi, il y a quelque chose que je voudrais comprendre sur la politique migratoire du pays, parce que ce que j'ai lu, c'est qu'aujourd'hui, on avait quand même une politique migratoire assez contraignante. On parle d'une immigration contrôlée, à peu près 1000 nouveaux arrivants l'année dernière, ou 1500 l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fermé les portes à un moment du pays? Adrien Rode.
Alors, les portes ont très longtemps été fermées parce que la Nouvelle-Zélande, jusque dans les années 60-70, se concevait vraiment comme une nation britannique voulant avoir une population britannique. Mm-hmm. Et c'est un pays qui était très fermé au monde, hein, à la fois sur le plan du protectionnisme et de l'immigration. Ils ont perdu cette relation avec le Royaume-Uni au moment où le Royaume-Uni est entré dans la CEE. Et ça a été un électrochoc. Et c'est à partir de ce moment où le pays s'est largement ouvert, notamment à l'Asie. Donc à partir des années 70, il y a eu une immigration asiatique très importante.
Puis il s'est refermé.
Alors, puis il a adopté la politique d'une immigration choisie. C'est-à-dire que le parti national, notamment, qui était au pouvoir pendant une dizaine d'années avant que Jacinda Ardern ne soit élu, le parti national était favorable à une immigration à très grande échelle à des fins économiques, mais une immigration qui soit effectivement sélectionnée. Hein. C'est un système de points. Vous entrez si vous avez les aptitudes, les qualifications qui sont nécessaires pour l'économie du pays.
Mais au compte-goutte, Adrien Rode, vous êtes d'accord avec ces chiffres que j'avançais? Enfin, c'est ceux que j'ai lus pour préparer l'émission. 1500 nouveaux arrivants cette année.
Alors, j'ai pas les chiffres précis en tête, mais effectivement, Jacinda Ardern elle-même, l'immigration a été un sujet de débat au moment de la campagne électorale de 2017, où le gouvernement sortant était favorable à une immigration très importante. Et Jacinda Ardern, de son côté, on l'oublie parfois, ou ça peut sembler surprenant vu qu'elle venait de la gauche, était favorable à réduire de manière assez importante l'immigration. Non pas parce qu'elle était opposée à la diversité, hein, en même temps elle célébrait la diversité culturelle, la réussite de ce vivre ensemble, de l'harmonie de ces différentes populations, mais elle disait, attention, quand l'immigration est beaucoup trop élevée, ça crée des difficultés en termes notamment d'infrastructures, en termes de pourvoir au service public. Il nous faut continuer à célébrer notre diversité, mais il nous faut réduire la rapidité, le taux de cette immigration, afin qu'on puisse investir suffisamment et faire en sorte et accès aux services dont ils ont besoin.
Donc on comprend cette position, sachant qu'on resitue sur l'échiquier politique, on est vraiment chez les travaillistes, et plutôt en réalité sur l'aile gauche travailliste néo-zélandaise. David Camrou sur cette politique migratoire néo-zélandaise. Pardon. Et puis ensuite, on va accueillir une nouvelle invitée pour parler de l'Australie.
Oui.
David Camrou. Oui, je vous en prie, on vous entend, David Camrou.
En fait, le problème de l'immigration de masse, en fait, de plus élevé, c'est que ça mettait en cause le rêve néo-zélandais des propriétaires de sa propre maison. Il faut savoir que les néo-zélandais sont l'esprit de paysans citadins. Et d'être propriétaire de son pavillon, c'est un peu le rêve qu'ils souhaitent tous les jeunes du pays. Et cette immigration de plus élevée a fait en sorte qu'il y avait une pression sur le marché immobilier qui rendait la possibilité de réaliser ce rêve impossible pour beaucoup de la population. Et c'est sur cette question-là, en fait, qu'elle avait une position peut-être plus conservatrice que le Parti national dans l'opposition.
Ça risque de continuer à être difficile, David Camrou, et là pour des raisons économiques. Le pays est rentré en récession, alors j'ai plus les chiffres là sous les yeux. Si, le PIB a chuté de 12,2% et l'économie devrait reculer pour 2020 de 7,2 points. Donc là, pour des raisons financières, ça va aussi être très compliqué.
Oui, ça sera compliqué, et aussi la Nouvelle-Zélande est devenue un peu victime de son succès. Le fait qu'on le voit dans tous ces films, les Seigneurs des Anneaux, dans beaucoup de films, fait en sorte qu'il y avait des riches Américains, par exemple, les riches Chinois, qui en sont venus acheter des propriétaires en Nouvelle-Zélande, et ça s'était considéré comme une sorte de concurrence déloyale de la population. Mais je crois qu'il y a simplement un dernier élément que je souhaite ajouter à notre débat, c'est que contrairement aux États-Unis, à l'Australie et la Nouvelle-Zélande et même le Canada, les Néo-Zélandais croient toujours à la démocratie. Il y a une étude qui vient de sortir de l'Université de Cambridge qui montre qu'en Nouvelle-Zélande, contrairement aux ces quatre autres pays anglophones, qui n'a pas, disons, les Néo-Zélandais restent satisfait du système démocratique. Il n'y a pas de mise en cause, comme on voit aux États-Unis très clairement, mais même en Grande-Bretagne, du système démocratique. C'est pour ça que je parle toujours de ce pays progressiste, conservateur progressiste.
On comprend maintenant la formule. On est avec vous, David Camrou, et vous, Adrien Rode, dans cette semaine consacrée à la gouvernance au temps du Covid. On parle de Jacinda Ardern, la révélation néo-zélandaise. Pour comprendre la Nouvelle-Zélande, il faut aussi regarder le voisin australien, pays aussi insulaire d'Océanie, où là, l'exécutif est emmené depuis 2018 par un homme, Scott Morrison, qui est un conservateur, donc de l'autre côté de l'échiquier politique, parti libéral conservateur. On va essayer de comprendre comment on y a géré la crise sanitaire, quelles mesures ont été prises, quelle efficacité et dans quelle mesure elle a peut-être aussi mis à mal l'unité nationale. On en parle tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
It is very important that this Parliament today come together.
Je crois que c'est important que nous nous unissions en tant que Parlement dans l'expression de notre gratitude envers les citoyens du Victoria pour leur résilience extraordinaire, leur détermination, leur patience et le soutien qu'ils se sont mutuellement apportés à travers ce qui a été un moment éreintant, difficile et accablant pour nombre d'entre eux. Je l'ai déjà dit au moment où le confinement dans l'État du Victoria a été mis en place. L'Australie ne gagnera pas tant que le Victoria n'est pas tiré d'affaire.
Will not win unless Victoria wins.
Voilà, c'était donc Scott Morrison, chrétien conservateur, chef de l'exécutif australien. Bonjour Charlotte Epstein.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure associée en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Sydney, chercheuse invitée aux séries Sciences Po de Paris. L'extrait du discours là qu'on vient d'entendre laisse apparaître, au fond, un soutien plein et entier de l'État central à l'égard de l'État du Victoria. Mais en réalité, il faut regarder les choses peut-être différemment, parce qu'il y a eu de vives tensions, des très vives tensions autour des mesures prises pour contrer la crise sanitaire dans cette région du sud-est du pays. C'est là d'ailleurs où se trouve Melbourne, qui est resté confiné pendant plus de 100 jours, je crois, 111 jours, je crois, c'est le record mondial. Mmh. Vous nous expliquez ces tensions qui n'apparaissent absolument pas là dans le discours de Scott Morrison.
Oui, j'avais pas entendu ce discours et j'étais d'ailleurs un petit peu interloquée moi-même de l'avoir entendu s'exprimer comme ça. Parce que, alors, en fait, la première chose à comprendre, qui est comme point de contraste par rapport à la Nouvelle-Zélande dont vous venez de discuter, c'est que c'est très important de réaliser que l'Australie est un État fédéral. Et ça change tout parce que c'est une des choses qui a pas tout à fait permis à Scott Morrison d'en faire une issue nationale, si vous voulez. C'est-à-dire que toutes les questions de santé sont gérées par les États individuellement. Et donc, ça veut dire que l'État fédéral n'est pas toujours, enfin, ne sait pas toujours, enfin, ne peut faire que des interventions limitées, y compris sur les frontières extérieures, mais pas sur les frontières internes. Et je dis ça parce que c'est là-dedans, c'est dans ce cadre-là que s'est déployé les disputes politico-politiciennes. C'est-à-dire que Andrews, le gouverneur de l'État du Melbourne, du Victoria, et du travailliste, et Scott Morrison est évidemment conservateur, et surtout les États autour du Victoria sont aussi conservatrices. Et en fait, le Victoria a pas eu beaucoup de chance parce que au début du confinement, c'est Andrews qui a demandé à ce qu'on prenne des mesures beaucoup plus dures. C'est-à-dire que c'est Andrews qui a pointé le doigt vers la Nouvelle-Galles du Sud en particulier, qui, par exemple, a laissé rentrer un gros bateau de croisière au milieu de Sydney, qui était un des premiers hotspots qui a apporté le Covid. Et à ce moment-là, c'était Andrews qui disait il faut fermer beaucoup plus durement, etc.
Et maintenant, les choses se sont renversées.
Exactement. Ouais. Donc, en fait, Andrews, il a pas eu de chance, hein, mais c'est comme, la France et l'Italie n'ont pas de chance non plus. Elles ont fait ce qu'il fallait et ça a pas l'air de marcher. Donc, Andrews a franchement pas eu de chance. Et du coup, c'est un peu la revanche des conservateurs.
Qui aujourd'hui ne veulent plus réouvrir les frontières. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, mais il faut aussi comprendre que, encore un point de comparaison, c'est-à-dire que quand Scott Morrison a quand même très mal géré la crise des feux, hein, les méga-feux d'il y a quelques temps, il était quand même assez prompt même à laisser porter le blâme, y compris sur les États, y compris les États de son propre parti, par exemple la Nouvelle-Galles du Sud. Donc c'est quand même quelque chose qu'il pratique assez souvent de faire porter la responsabilité sur les États locaux. Mais voilà, c'est là-dedans et là dans le discours que vous citez, il se comporte en leader, sachant qu'il y a quand même il a aussi l'autre facteur très important en Australie, c'est quand même de comprendre l'importance de la presse Murdoch, hein, qui se fait le porte-parole de ces attaques politico-politiciennes sur les travaillistes. Ça, c'est quand même une composante politique essentielle pour comprendre la dynamique en Australie.
En tout cas, au-delà des tensions entre l'État central et l'État de Victoria, au-delà du fait que vous avez raison de rappeler qu'on est dans un État fédéral et que donc, en réalité, on n'a pas véritablement les moyens d'imposer sa politique aux États, et en particulier en matière sanitaire et aussi en matière de contrôle des frontières, qui a quand même été un élément évidemment central pour contrer cette crise sanitaire. Je ne l'ai pas dit, mais il faut rappeler qu'on est là aussi en Australie avec un bilan extrêmement faible. Hein. Moins de 1000 morts, hein, 907 morts. Il y a quand même une question qui se pose sur le Epstein, c'est que malgré ces mesures de confinement extrêmement dures, je disais 111 jours pour Melbourne, les études d'opinion montrent que quand même les Australiens ont plutôt bien accepté les choses dans leur très grande majorité. Près de 90% des Australiens ont considéré qu'en fond, les mesures qui avaient été prises étaient bonnes, pertinentes. Alors même qu'il y avait, vous l'avez dit, des stratégies différentes d'un État à l'autre. Mais Comment expliquer cela? Est-ce que il faut faire appel à une approche culturelle, culturaliste, et dire que les Australiens mettent le collectif au-dessus des libertés et des intérêts personnels? Est-ce que c'est dû peut-être à un travail d'explication particulièrement bien fait de la part des responsables politiques et Scott Morrison et évidemment les responsables locaux, parce qu'on sait qu'ils sont très importants? Comment vous l'expliquez, cette acceptation des mesures?
Oui, je dois dire que je suis pas forcément sûre de savoir comment l'expliquer, parce que je suis moi-même un peu surprise de ça. Je suis moi-même un peu surprise parce que on peut pas dire que le public était très satisfait de la gestion de la dernière crise autour des feux. Et je suis pas sûre que Morrison serait réélu aujourd'hui, même si le nombre de cas est allé assez léger. Il y a une culture, enfin je sais pas la France, hein, l'Australie, il y a une culture plus, on descend pas si facilement dans la rue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi je vois pas vous me parlez d'un soutien de sondage, je veux bien le croire, mais je vois quand même des choses très cassées, hein, je vois une casse sociale. Hein,
qu'est-ce que vous voyez comme casse sociale?
Bah, par exemple, au début, la première mesure qui a été prise, c'était comme dans tous les autres pays, de sortir des subventions Covid. Et très vite, il s'est avéré que la subvention Covid a été réorientée afin d'en exclure, par exemple, le secteur universitaire.
Sachant que c'est qui est très important, parce que l'éducation, c'est le troisième secteur d'exportation du pays.
C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est quand même un pays, ça attire le monde entier, ça attire beaucoup d'étrangers. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Nouvelle-Zélande est très ouverte vers le monde, pareil en Australie. Et donc, si vous voulez, là, c'était même franchement vicieux, hein, c'est-à-dire que c'était une mesure prise à la dernière minute afin d'en exclure la possibilité que les gens en CDD qui travaillent dans les universités puissent bénéficier de cette subvention. Donc c'est je veux dire, dans les faits, il y a c'est pas géré c'est pas un mouvement de rassemblement que je constate.
Alors voilà. Oui, d'ailleurs on l'a vu aussi Charlotte Epstein sur la question de la quarantaine, sur le rapatriement des personnes. D'abord, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de retourner au pays. D'ailleurs, vous en êtes un témoin direct, puisque vous ne pouvez pas retourner du côté de l'Australie. Il faut d'abord trouver un avion, il faut payer aussi sa quarantaine. Alors, c'est très cher, c'est pareil, ça dépend des États, mais j'ai vu des prix entre 1 500 € et 1 800 €, selon les États. Et vous parliez d'unité. Lorsqu'on a interrogé Scott Morrison à ce sujet, il a dit les Australiens à l'étranger n'avaient qu'à rentrer avant. Voilà, et puis c'est tout.
Voilà. C'est-à-dire que si on est rentré avant une certaine date, ça va, mais si on est rentré après, c'est tant pis pour soi.
Ouais. Vous voyez d'autres secteurs qui pourraient être touchés par les conséquences économiques? Parce que là aussi, hein, comme toutes les autres économies du monde, on est en récession.
Oui, je veux dire, tous les secteurs qui sont quand même tournés vers l'international. Le secteur du tourisme, qui est aussi un des gros secteurs un des plus gros secteurs aussi à l'export et à l'import en Australie, ça c'est certain qu'il va être très très affecté. Ils le disent déjà. Ça, à mon avis, ce sont les deux grands qui vont souffrir le plus. Mais c'est beaucoup. Le tourisme et l'export, c'est beaucoup. Le tourisme et l'éducation, c'est beaucoup pour l'économie. Voilà.
Peut-être une réaction de nos invités, David Camerou et Adrien Rhodes, sur ce jeu de miroir entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. David Camerou.
Oui, je crois que, comme Charlotte a insisté, en fait, la différence entre un système fédéral et un système plus centralisé est très importante dans la gestion de la crise. On le voit en Asie du Sud-Est, les Vietnamiens, un État centralisé, ont réussi. Les Indonésiens, qui est un État très décentralisé, n'ont pas réussi. Donc, ce facteur est quand même très important. Mais aussi, l'Australie connaît actuellement une double peine parce que il est aussi la victime d'une guerre commerciale menée par les Chinois pour faire comprendre indirectement aux Américains qu'il faut pas jouer trop avec nous parce qu'on peut faire du mal. Donc il y a actuellement des tarifs sur un certain nombre de produits d'exploitation australiens, encore une fois, qui fait beaucoup de mal à l'économie.
Même si ça dépend où on place la réussite, hein, comme vous le disiez, David Camerou, parce que, je rappelle, moins de 1 000 morts, on peut considérer que c'est une réussite. En tout cas, on regarde d'autres pays qui sont bien plus atteints. Adrien Rhodes, peut-être réaction aussi.
Oui, effectivement, le fait que la Nouvelle-Zélande soit un État unitaire a beaucoup aidé. Hein. Jacinda Ardern pouvait exercer l'autorité de son gouvernement sur l'ensemble du territoire. Mais je reviens vraiment à cette question de personnalité, de manière de gestion personnelle de la crise. Jacinda Ardern a très bien communiqué. En conciliant la communication formelle avec des conférences de presse presque tous les jours au début de la crise et une communication beaucoup moins formelle, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus proche de la population. Elle a organisé des discussions par vidéo, par médias sociaux, sur Facebook ou autre, avec des Néo-Zélandais ordinaires qui pouvaient l'interpeller, lui parler alors qu'elle était à son domicile. Et elle a fait un gros effort, non seulement pour paraître proche de la population, mais vraiment pour rassurer. Et je pense que le lien à l'attentat de Christchurch de l'année d'avant l'a aidé aussi dans ce domaine-là, parce que les Néo-Zélandais avaient déjà l'habitude, en conséquence, de la voir comme une personne compatissante, empathique, et comme une personne de confiance, qui a su prendre les mesures nécessaires, par exemple l'interdiction de certaines armes à feu hein, après la tuerie, qui a su prendre les mesures nécessaires et qui a su rassembler la population autour de cette empathie, autour de ce vivre ensemble.
Mmh, et vous insistez beaucoup sur cette capacité à rassembler du côté de la Nouvelle-Zélande, du côté de Jacinda Ardern, qu'on retrouve beaucoup moins chez Scott Morrison. C'est ce que vous disiez d'ailleurs Charlotte Epstein également.
Oui. Et pour terminer peut-être sur ce point, à exercer aussi l'autorité de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée de conservatisme progressiste qui a vraiment été la marque de fabrique dans la manière dont les Néo-Zélandais se voient eux-mêmes, se définissent eux-mêmes depuis le 19e siècle. C'est à partir de la fin du 19e siècle, il y a eu un large accord de la part de la population pour reconnaître un rôle important de l'État. Ça a été le cas encore plus dans les années 1930, quand les travaillistes sont arrivés au pouvoir et ont mis en place un État-providence. On a considéré qu'il est normal que l'État puisse exercer une certaine autorité au nom du bien-être de la population. Well, she's up and she's down. My town, and I see that it's tough hanging round. Then a change of events, then she's up and went. Oh, I'm so. C'est avec ce titre, I'm so happy for you, Robert Forster, australien évidemment choisi par notre ami Benjamin Hu. Merci infiniment à tous nos invités, Charlotte Epstein qui est avec nous par téléphone, Adrien Rod, David Camereau, nous avoir éclairé sur une région qu'on connaît pas si bien, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il s'y passe. Merci infiniment à tous les trois. On peut retrouver évidemment toute cette série concernée à la consacrée à la gouvernance au temps du Covid sur la page de France Culture et sur l'application Radio France. Mais tout de suite, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors la première puissance mondiale vient de se doter d'un nouveau président. Les décisions qu'il va prendre auront donc des conséquences pour le monde entier. À quoi peut-on s'attendre ?
Eh bien, selon Richard Haass, le président du Council on Foreign Relations, la tâche qui attend Joe Biden est immense. Réparer le monde, pas moins. Pas le construire, précise-t-il, non, le réparer. Réparer signifiant prendre ce qui existe déjà, mais qui a été cassé, et le faire fonctionner de nouveau, parce qu'il y a urgence. Après le temps des réparations, viendra le temps de la reconstruction. L'urgence, c'est bien sûr la situation intérieure du pays. Les États-Unis comptent 250 000 morts du Covid, tandis que la course contre la montre pour la vaccination vient à peine de commencer. Il faudra mettre en place des lieux où la population pourra se faire tester, et une fois le vaccin disponible, il faudra que les États-Unis le fournissent généreusement au reste du monde. En termes d'image, un vaccin germano-américain contre une épidémie venue de Chine ne peut que bénéficier aux démocraties occidentales. Le chômage grimpe, dépassant les 6%, ce qui est beaucoup aux États-Unis. Le filet de protection sociale étant beaucoup moins serré qu'en Europe, cela signifie que des millions d'Américains vont être dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes et qu'un certain nombre vont même perdre leur maison. Mais c'est sur le front extérieur que Richard Haass concentre ses avertissements et ses conseils. Il faut réparer d'urgence les bêtises de Trump, même si, concède-t-il, un certain nombre des décisions du sortant ont été parfois couronnées de succès. Ainsi, sonner les cloches à la Chine pour ses pratiques commerciales asymétriques n'était pas inutile. Peu probable que Biden se montre plus accommodant. Fournir des armes à l'Ukraine, agressés par leur puissant voisin qui a annexé une partie de leur territoire, les Ukrainiens ont bien le droit de se défendre. Renégocier le traité commercial avec le Mexique, Trump et son fameux « art du deal ». Réconcilier Israël avec un certain nombre de ses voisins arabes, le grand soulèvement qu'on nous avait promis après le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem ne s'est pas du tout produit. Au contraire, les pétromonarchies du Golfe se sont rapprochées de la Startup Nation face à l'ennemi commun, l'Iran.
Alors voilà donc, Brice, pour la partie positive du bilan. Et maintenant, dans la colonne des erreurs.
Richard Haass les résume en trois chapitres. 1. Trump a affaibli les alliances en mettant en question la fiabilité des États-Unis. Selon John Bolton, si le président sortant avait été réélu, il prévoyait carrément que les États-Unis quittent l'OTAN au cours de son second mandat. 2. Trump a eu tort de retirer les États-Unis de plusieurs agences internationales et de dénoncer un certain nombre de traités signés par ses prédécesseurs sans proposer pour autant d'alternatives. Enfin, 3. Trump a copiné avec des leaders autoritaires tels que Kim Jong-un, Poutine ou Erdogan, abîmant ainsi la réputation des États-Unis en tant que puissance au service de la démocratie dans le monde entier, sans rien obtenir de concret. D'où les préconisations du Dr Haass. Priorité numéro 1, les alliances. Elles constituent le grand avantage structurel des États-Unis. Elles fournissent des ressources pour faire face aux défis planétaires comme le réchauffement climatique ou la dissémination nucléaire, mais aussi les moyens de gérer les crises locales et de prévenir. Dans les récentes années, l'incapacité des États-Unis à tenir tête à leurs adversaires et à défendre leurs alliés dans plusieurs régions du monde a érodé leur crédibilité. On voit que Haass fait partie du courant de pensée qui, en Amérique, considère que les USA ne doivent pas se retirer des affaires mondiales pour se resserrer sur leur sécurité rapprochée. Les États-Unis nous ont habitués à ces mouvements de balancier. Après le moment Trump de rétractation de la puissance américaine sur elle-même, nous allons probablement assister aux initiatives d'une diplomatie active. Au cours de la campagne, Joe Biden s'est engagé à tenir à la Maison-Blanche un sommet de la démocratie dès la première année de sa présidence. Mais c'est surtout dans les institutions internationales telles que l'OMS et l'OMC, que Richard Haass souhaite un retour actif des États-Unis. Certes, la Chine est parvenue, par un activisme diplomatique efficace, à obtenir une grande influence au sein de plusieurs de ses agences du multilatéralisme, mais ce n'était pas une raison pour les bouder comme l'a fait Trump. Dans le même esprit, il est clair que Biden, comme il l'a promis, va réintégrer l'accord de Paris sur le climat et reprendre langue avec la France et l'Allemagne pour renouveler l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Il va également négocier avec Poutine un remplacement du traité sur la limitation des armements START par un nouvel accord. Et avec la Chine, entamer des discussions pour déterminer les domaines où une coopération est possible, climat, Corée du Nord, et mettre en œuvre des procédures de consultation pour éviter escalade conflictuelle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et via l'application Radio France. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.